Voilà, nous sommes au troisième jour de notre séminaire intitulé « Évangile et culture ». Le but de ce séminaire, comme les autres, comme d'autres, c'est toujours nous amener à la perfection et nous aider à servir Jésus avec simplicité, vérité, gloire et efficacité. Le but, c'est de produire des fruits, parce que le Seigneur lui-même dit que l'arbre qui ne porte pas de fruits sera déraciné, sera coupé. Et nous voulons que les chrétiens portent les fruits. Et souvent, il y a des blocages dans la vie de beaucoup de chrétiens. Ils n'arrivent pas à exprimer le grand Jésus qui est en eux afin de porter beaucoup de fruits. Et un de ces blocages tourne autour de la culture. Donc on avait donné Deutéronome 7 qui nous rappelle l'instruction du Seigneur vis-à-vis des enfants d'Israël concernant les pays, les peuples qu'ils allaient chasser de la terre promise. Le Seigneur leur demandait de ne pas se mélanger à ces peuples-là, de ne pas suivre leurs habitudes, leur façon de faire. Il y avait un objectif dans tout cela. Il fallait que le peuple d'Israël soit un peuple uni dans la vérité, unis dans la sainteté de Dieu, dans l'image de Dieu, pour pouvoir être efficace dans la transmission de qui était Dieu aux autres peuples, afin que Dieu agisse glorieusement en eux, c'était ça l'objectif, et si Dieu agit d'une façon puissante en eux, ils pourront être un message pour les autres peuples du monde entier. C'est pourquoi Dieu était dur envers les enfants d'Israël. Il fallait qu'ils soient maintenus dans la pureté, dans la vérité, dans la gloire. Et cela n'était possible que par la sanctification. La sanctification, quand on dit qu'on est saint, ça ne veut pas dire qu'on est forcément pur à 100%. Être saint, ça veut dire être mis à part. C'est ce que ça veut dire. Donc il fallait que le peuple d'Israël soit un peuple mis à part. Aujourd'hui, l'Église est formée d'un nouveau peuple qui est aussi mis à part, parce que Église veut dire Ecclesia, qui fait référence à un mot grec qui veut dire appeler hors d'eux pour faire une assemblée. Et c'est ça l'Église. Donc c'est un peuple mis à part dans le but d'être travaillé, brillé et éclairer l'humanité entière afin que chacun rencontre le véritable Dieu. Et cela passe vraiment par cette sanctification, cette mise à part. Vivre en citoyen du ciel afin d'être brillant sur terre et produire des fruits qui vont occasionner le salut de toute l'humanité. C'est ça l'objectif de Dieu. Et un des éléments qui nous empêche justement de briller ainsi, ce sont les cultures. Et dans culture, nous avons le mot culte. Donc une culture, c'est une série d'habitudes, de coutumes, des usages que nous avons reçus par naissance en vivant dans une société donnée et qui finissent par devenir une sorte de culte dans le sens où nous sommes comme soumis à ces habitudes-là, soumis à ces us, à ces usages, soumis à des traditions, à ces traditions. Et ça devient comme un culte, on dit culture. Et nous avions expliqué que dans Éphésiens 2, le Seigneur dit que en suivant le train quotidien de la vie dans ce monde, nous étions dans nos péchés. Donc ça veut dire que dans ces cultures fonctionnent des systèmes posés par le diable pour nous maintenir dans des comportements qui ne sont pas bibliques. Le diable profite des cultures pour nous éloigner de Dieu. Imaginez que nous vivions à l'époque où Israël existait en tant que avec Moïse et autres. Dieu aurait dit à Moïse de ne pas s'associer à nous aussi. Il aurait dit à Moïse de ne pas se mélanger aux gens qui vivent dans nos cultures. Mais nous n'existions pas encore à cette époque-là. C'est pour dire que nos cultures ne comportent en elles-mêmes des façons de faire qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Et le samedi, nous avions donné quelques exemples de cultures. On a parlé de la culture américaine, on a parlé d'une certaine culture africaine, parce qu'en Afrique, il y a aussi beaucoup de peuples, beaucoup de cultures, mais on a donné quelques exemples, notamment de la culture de l'Afrique centrale. On a parlé aussi de la culture française hier, pour nous aider à comprendre les méfaits de la culture. Donc la culture devient comme une seconde nature. Et on avait expliqué que le danger de la culture, c'est qu'on ne la remet pas en question parce qu'elle est devenue comme une sorte de façon de vivre, comme, comme si on respirait. Et on n'a souvent pas le temps de méditer là-dessus parce que c'est comme considéré comme normal, parce qu'on vit ça. Et alors que il y a des choses qui sont interdites par la société, lorsque nous sommes tentés à les faire, nous nous sentons comme attaqués, comme oppressés. Alors que quand nous subissons la culture, nous semblons vivre cela normalement. Et parfois, quand on nous en parle, on ne voit pas le mal parce qu'on se dit « mais on a toujours fait ainsi ». Mais oui, mais faire toujours ainsi ne veut pas dire être conforme à la volonté de Dieu. Et beaucoup de gens sont bloqués, ils n'entrent pas dans l'appel de Dieu parce qu'ils sont bloqués par leur culture. Un exemple simple, il y en a qui veulent aller dans une église où ils vont se sentir comme au milieu de leur peuple d'origine ou dans leur pays d'origine. Donc il est en France, mais il cherche une église congolaise, il cherche une église haïtienne, donc où il va se retrouver comme s'il était en Haïti ou au Portugal ou en Espagne, il cherche une église espagnole. Donc il ne cherche pas Dieu, mais il cherche l'Espagne dans l'église. Et ça, une pareille personne, si elle est appelée à sauver des Français, elle ne pourra pas le faire parce qu'elle, elle cherche l'Espagne, elle ne cherche pas à sauver les Français. Et donc, c'est des blocages. C'est des blocages. Et on voit des gens qui n'écoutent que la musique de leur pays d'origine. Ils veulent que tout soit fait selon leur pays d'origine. Et de telles personnes ne peuvent pas être des ambassadeurs pour Dieu dans cette humanité. Ils vont être que ambassadeurs dans leur pays d'origine. Maintenant, il faut se poser la question, mais comment tu te retrouves en France? Ou bien le Français, aujourd'hui, doit se poser la question. Tant de peuples aujourd'hui sont en France. Qu'est-ce que Dieu veut me dire par là? Voilà, donc c'est vice-versa. Donc on doit se poser ces questions-là, se dire, tiens, si il y a tant de musulmans, tant d'arabes en France, c'est que Dieu m'appelle à faire quelque chose aussi pour leur salut. Et donc par conséquent, je dois me libérer de mon étiquette de Français, vivre en citoyen du ciel pour pouvoir apporter l'évangile à ces gens-là. Et chaque jour, nous lisons peut-être à chaque fois des versets nouveaux. Aujourd'hui, nous lisons 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9. À partir du verset 19. Car, bien que je sois libre à l'égard de tous. Voilà, Paul est clair. Il veut dire, voilà, car bien que je sois citoyen du ciel, je n'appartiens à aucune nation, j'appartiens au ciel. Je suis libre à l'égard de tous. Donc je peux vivre en dehors de toute culture. Bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre avec les Juifs. J'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans loi, sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi, j'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles, je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Voilà ce que dit notre frère Paul. Je me suis fait tout à tous. Avec les Iraniens, je suis comme les Iraniens. Avec les Marocains, comme les Marocains. Mais d'où me vient, d'où peut me venir une telle facilité ou capacité? C'est dû au fait que moi-même, je ne suis pas attaché à une culture. Parce que si j'étais attaché à une culture, je ne pourrais pas sauver les Marocains, je ne pourrais pas sauver les Iraniens. Il faut que moi-même, je sois libre. Donc, il commence le passage en disant, je suis libre. Je suis libre. Mais cette liberté, je l'utilise pour que le Saint-Esprit se serve de moi et me rende utile pour toutes les nations. Voilà ce que Paul dit. Je suis libre. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont pas libres. Ils ont accepté Jésus, mais ils gardent encore les pratiques culturelles qui vont un jour ou l'autre faire obstacle à leur marche, faire obstacle à dans la progression de leur mission sur terre. Car chaque chrétien doit avoir un projet avec Dieu dans lequel il s'inscrit. Il ne va pas vivre juste en consommateur. C'est déjà ça encore un élément de culture aujourd'hui, culture mondiale cette fois-ci, où les humains vivent en consommateur. Ils viennent consommer une prédication, consommer une bénédiction, une prière, mais ils ne viennent pas s'inscrire dans un projet avec le Seigneur. Or, le Seigneur a un plan avec chacun de nous et il veut l'accomplir. Et il faut que nous nous examinions pour savoir si nous sommes consommateurs ou acteurs dans le plan de Dieu. Et nous avions donné quelques exemples de culture, comme je l'ai dit, la culture américaine avec la logique de l'argent, logique de la réalisation personnelle. Aujourd'hui, les églises américaines ont influencé les églises du monde entier, mais elles-mêmes, elles ont été influencées par la culture américaine de la réalisation personnelle, où on éduque les gens à devenir quelqu'un. C'est ce qu'on appelle le rêve américain. Ces églises-là ont été influencées par la culture de l'argent. Les Américains, en tant que peuple, aiment beaucoup l'argent. Je pense que vous avez déjà entendu parler de la ruée vers l'or. Donc, quand l'or a été découvert à l'Ouest américain. Donc, et il n'y a pas que ça. La culture d'entreprise, beaucoup de systèmes liés à l'argent viennent des États-Unis, la bourse et autres. C'est des choses qui sont développées là-bas parce que les gens aiment l'argent. Et cet amour pour l'argent a été introduit dans les églises. Et aujourd'hui, il y a tout un système de marketing dans les églises qui fait fonctionner les églises comme des entreprises afin de produire de plus en plus d'argent. Et maintenant, les gens diront, mais oui, mais cet argent sert à faire des chaînes de télévision. Après, ces chaînes de télévision contribuent à ce qu'on prêche dans le monde entier. Oui, mais Dieu est tout puissant pour faire des chaînes de télévision sans l'argent égoïste, sans l'argent de ce monde. Il peut, lui, produire ces choses-là par sa puissance. Quand le Seigneur a envoyé les disciples, il leur a demandé de partir poche vide parce qu'il savait comment il allait s'occuper d'eux. Donc, entrer dans un système du monde et prendre ce système du monde, introduire dans l'Église, ce n'est pas biblique. Le Seigneur dit qu'on doit se séparer du monde. Et là, dans Deutéronome 7, il leur dit, il ne faut pas prendre les habitudes des peuples que vous allez rencontrer. Et nous, nous sommes comme un nouveau peuple qui a été envoyé du ciel sur terre. Et donc, si Dieu a donné ce conseil aux enfants d'Israël, il nous donne le même conseil, les mêmes instructions en tant que peuple de ne pas faire de mélange avec les habitudes que nous voyons dans les peuples de la terre, que ce soit même ton peuple d'origine. Donc tu dois te considérer comme citoyen du ciel. C'est ça le but du séminaire. On a cité par exemple, peut-être je ne l'ai pas dit hier, un problème dans la culture africaine, un refus de considération de l'intérêt général. C'est-à-dire que, surtout en Afrique centrale, chacun s'occupe de sa maison et surtout de son ventre. Il a du mal à chercher l'intérêt général. C'est-à-dire que si on disait il faut balayer la rue ou faire un travail d'intérêt général, dans sa tête, il se dit, mais ça va contribuer à 1 000 personnes, à 10 000 personnes. Donc moi, je ne suis qu'une infime minorité dans ces 10 000 personnes. Moi, je ne vais pas faire pour les autres. Or, lui-même aussi va utiliser cette route-là. Il va utiliser la même rue, mais comme il voit que d'autres encore vont faire, ils sont nombreux, donc il préfère ne pas faire parce que ça va servir aux autres. Toute l'humanité est remplie d'égoïstes, mais les égoïsmes ne se manifestent pas de la même manière. Vous allez être dans un pays comme la France, quelqu'un est prêt à faire un travail d'intérêt général parce qu'il sait que ça va lui profiter aussi. Mais vous allez avoir, même s'il le fait d'une manière égoïste en se disant « parce que ça va me profiter aussi », mais il sait aussi que ça va profiter à 20 000 personnes, mais il fait partie de ces 20 000-là. Mais vous allez voir ce problème-là en Afrique centrale où quelqu'un, parce qu'il sait qu'il y a 20 000 personnes qui vont utiliser la chose, il va dire « mais moi, je ne veux pas contribuer à ce que 20 000 utilisent », alors que lui, il fait partie de ces 20 000-là. Donc les égoïsmes ne se manifestent pas de la même manière. Donc chaque peuple a ses problèmes. Et on avait parlé, par exemple, de la gastronomie en France, où c'est devenu un culte. Quand on était en Israël, on faisait les circuits de visite. Notre guide israélienne, elle a dit, parce qu'à un moment donné, elle a décidé, avant de manger, qu'on aille d'abord dans un site à Masada, parce que si on mange et puis qu'on y remonte, ça sera un peu lourd, ça sera difficile. Donc on en finisse avec ce site-là et puis on mange une fois pour toutes. Alors, donc c'était arrivé vers midi 30. Et puis 13 heures, les Français ont commencé à grogner. Alors notre guide a dit, vous savez comment les Juifs mangent? Quand est-ce que les Juifs mangent? Ben ils mangent quand ils ont faim. Et vous savez quand est-ce que les Français mangent? En regardant la montre. Donc on voit l'implication de la culture. Il y a même une Française au milieu de nous qui est tombée par manque de sucre. Dès qu'on lui a amené un peu de jus d'orange, elle a trouvé un peu de force. J'ai dit, ah voilà. Parce que la montre a dit midi. Nous autres, issus peut-être d'autres cultures, bon, on a tenu parce qu'on mange en fonction du ventre. Donc chaque culture a ses problèmes. On avait dit que la gastronomie en France est devenue un obstacle pour l'évangile parfois parce qu'on veut faire la communion fraternelle, mais on ne peut pas parce que la personne qui reçoit veut faire les choses tellement bien, veut faire les choses à la manière française avec une entrée, sortie, récréation, je ne sais pas quoi. Et comme ça demande beaucoup de travail, il finit par décider de ne pas recevoir les gens. Et ça freine la communion fraternelle. Donc on a expliqué que on ne s'en prenait à aucune culture comme adversaire si on avait un problème contre une culture. Non, on n'a pas de problème personnel. On veut seulement que le chrétien comprenne que lorsque sa culture devient un obstacle pour l'évangile, il ne doit pas céder à sa culture. Il doit être ferme et rester citoyen du ciel. Nous allons lire maintenant un exemple, l'histoire de personnes qui étaient confrontées à une culture et ils ont résisté pour la gloire de Dieu. Donc on lit le livre de Daniel. Le livre de Daniel. À partir du chapitre 1er, la troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui de jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné, et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Voilà. Daniel est enlevé, entraîné captif à Babylone avec 3 de ses amis. Et arrivé là-bas, ils sont choisis pour être formés et servir auprès du roi. Et il fallait qu'ils soient bien nourris afin d'avoir une bonne mine face au roi. Mais il est écrit que quand on leur a amené la nourriture, Daniel a refusé. Il dit qu'il a refusé de se souiller. Comprenez que cette nourriture était mangée par tous les autres. Et pour tous les autres, ils se considéraient pas souillés en mangeant cette nourriture-là. C'est pour nous dire quoi, bien-aimés. Ce n'est pas parce que quelque chose est accepté par tout le monde que nous, on doit accepter ça. Ce n'est que Daniel qui se trouvait souillé par la nourriture. Nos cultures peuvent paraître normales, comme hier dans les questions qui ont été posées. Quelqu'un dit, non, ne pouvons-nous pas retirer de bonnes choses de nos cultures? Moi, j'ai dit non. Nous devons retirer les bonnes choses que de la Bible. Maintenant, si les bonnes choses que nous retirons de la Bible coïncident avec certaines choses de culture, eh bien, nous continuons, nous les acceptons. La Bible veut qu'on soit sérieux. Maintenant, si on est en France où les gens sont ponctuels, on dit qu'on sert à 20h, ils viennent à 20h, eh bien, nous aimons ça, nous acceptons. Mais ce n'est pas en France que nous allons retirer de bonnes choses si c'est dans la Bible. Et Daniel, pour lui, selon le commandement de son Dieu, manger ces mets-là était synonyme de se souiller. Mais pour tous les autres, c'était normal. Ce n'est pas quelque chose parce que dans nos cultures, il y a parfois des choses qui semblent normales. Le cas a été posé même hier aussi concernant la logique du respect des aînés, par exemple, en Afrique, ce n'est pas, comment dire, c'est quelque chose qui va d'une manière générale avec la logique biblique qui veut qu'on respecte les aînés. Mais il y a quelqu'un qui nous a bien soulevé que non, en réalité, ce respect des aînés va plus loin que la logique biblique. Ça entraîne les aînés à être orgueilleux et refuser d'être repris par les plus jeunes. Vous voyez que même si la culture peut sembler comporter quelque chose de bon, si vous allez au fond de la chose, vous trouvez toujours que l'homme l'utilise finalement pour son compte, pour ses intérêts. Mais alors que quand la Bible parle de quelque chose, elle en parle dans l'intérêt de Dieu, pas dans l'intérêt de l'homme. Donc respecter les aînés selon la Bible, ça ne nous empêche pas de dire la vérité aux aînés. Alors que respecter les aînés, c'est selon certaines cultures, ça nous empêche même de leur dire la vérité. Et ça leur donne des droits qui font d'eux des dictateurs parfois. Donc vous voyez bien que même quand quelque chose de la Bible semble coïncider avec quelque chose de nos cultures, il y a quand même toujours une différence. C'est pourquoi nous devons toujours nous concentrer sur la façon dont la Bible présente les choses et non pas sur la façon dont nos cultures présentent les choses. Donc je reviens sur Daniel pour dire que ce que le peuple babylonien trouvait normal, c'était quelque chose qui souillait Daniel. Donc nos cultures, tout le monde les trouve normales. Mais pour un chrétien citoyen du ciel, il y a beaucoup de choses dans nos cultures qui nous souillent. Et nous devons ouvrir les yeux que Dieu nous les montre pour qu'on s'en débarrasse et vivre en enfant de Dieu, en citoyen du ciel. Et c'est ce qu'a fait Daniel. Mais c'est vrai que quand on prend cette décision, nous allons faire peur parce qu'on va être comme des extraterrestres. Et quand Daniel a dit à l'eunuque qui s'occupait de ne pas lui donner les mets du roi, l'eunuque a eu peur, il s'est dit, aïe, s'il ne mange pas comme je donne, forcément, ils vont être maigres. Ils vont être maigrichons et j'aurai des problèmes avec le roi. Daniel a dit, non, on peut bien vivre avec la nourriture d'Israël que vous allez nous donner sans être maigre, on sera en bonne santé. Et souvent les gens se sont freinés eux-mêmes en se disant, bon, si je me comporte vraiment comme un chrétien, je ne crois pas que ça réussira. Dans les affaires, il faut savoir mentir. En politique, il faut savoir mentir. Dans tel domaine, il faut savoir voler. Je pense que je ne peux pas être chrétien et réussir dans tel domaine. C'est impossible. C'est faux. C'est possible. Et là, Daniel a refusé de se compromettre, a refusé de se souiller. Et nous avons vu le résultat. Lui et ses trois amis étaient les plus intelligents. Ils étaient les plus intelligents et ils ont produit beaucoup de fruits. D'où le conseil que je nous donne à tous. Pourquoi nous ne produisons pas beaucoup de fruits? Parce que nous refusons de vivre en citoyen du ciel. Nous colportons nos cultures, nous coltinons ces cultures-là et ça nous empêche de briller comme Daniel a brillé. Daniel, quand il a refusé de céder à la culture babylonienne, le Seigneur a brillé fortement en lui, de sorte qu'ils étaient en meilleure santé que les autres et ils étaient plus intelligents que les autres. C'est possible, bien-aimés, de briller de la gloire de Dieu sur terre, mais il faut vivre libéré des cultures, parce que ce sont des forteresses, les cultures. Les forteresses, c'est des principautés, des dominations, des grands démons qui empêchent les gens de vivre la connaissance de Jésus clairement. Paul nous explique ça dans 2 Corinthiens 10. Allez voir, dans certaines cultures, il faut à tout prix que l'homme soit séparé de la femme considérée comme une sorte de déchet. Et souvent des chrétiens de ces cultures-là, ils vont utiliser le verset « Femmes, soyez soumises » pour continuer à vivre leur culture. Et ils ne comprennent pas que la Bible dit clairement « Il faut que la femme soit soumise, mais sans aucune crainte. » Notre frère Pierre nous le dit dans 1 Pierre 3, « Sans aucune crainte. » Et on va prendre un verset qui ressemble un peu à notre culture et imposer ça et continuer la culture sous couvert d'un verset biblique. C'est faux. Nous devons chercher toujours notre façon d'agir, de faire à travers la Bible et non pas à travers nos cultures d'origine. C'est ainsi que les Américains utilisent le passage Ecclésiaste 10-19 qui dit « L'argent répond à tout » pour justifier qu'ils mettent le commerce dans les choses de Dieu, alors que Dieu interdit le commerce dans ses affaires à lui, dans la plupart des passages bibliques. Mais on va prendre un verset hors de son contexte, un verset qui explique juste que dans le monde, si tu as l'argent, tu peux obtenir tout avec ça. C'est un verset qui explique la réalité du monde, c'est tout. Ça ne veut pas dire que nous, on doit prendre l'argent et chercher à obtenir tout avec cela. Mais comme ces gens-là sont des cultures mercantiles, alors ils prennent le verset, ils détournent le verset pour pouvoir vivre leur culture sous couvert de la Bible. Mais Dieu finit toujours par dévoiler. Et aujourd'hui, de plus en plus de chrétiens commencent à prendre conscience que nous ne devons pas vendre les CD, vendre les DVD, les livres, parce que ça contient la parole de Dieu, ça contient les chants de Dieu. Et ce ne sont pas des choses dont on doit faire, avec lesquelles on doit faire du commerce. Il est écrit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Il y a même des séminaires payants, des concerts payants. C'est des abominations. Comment on veut sauver les âmes? On leur demande l'argent pour les sauver. Mais ils vont dire, ben restez avec votre salut. Mais vous allez me dire, mais pourquoi beaucoup de gens y vont quand même? Parce que les gens, ils préféraient acheter le salut. Comme ça, ils font ce qu'ils veulent. Ils savent que, vous savez, dans le monde, on dit le client est roi. Les gens préfèrent payer, comme ça, c'est eux les vrais rois. Ce n'est pas Dieu qui est roi. Mais quand c'est gratuit, on est en position d'infériorité par rapport à celui qui donne. Mais quand on a acheté, on est en position de supériorité. C'est ça la réalité. C'est pourquoi les gens préfèrent l'évangile de l'argent. Là où il va payer une prophétie, là où il va payer une délivrance. En réalité, ça fait de lui le vrai chef. Ce n'est pas la personne qui le délivre, mais c'est lui, parce que c'est lui qui nourrit la personne qui le délivre. C'est lui qui le paye, qui le paye. C'est lui le vrai chef. C'est pourquoi cette logique-là marche, parce que les humains ne veulent pas de Dieu comme leur roi. Daniel a tenu bon. Donc, premier conseil, si nous voulons vivre dans la victoire en tant que chrétien, parce qu'aujourd'hui, le thème, c'est la victoire sur les cultures, il faut vivre en citoyen du ciel. Accepter de vivre en enfant de Dieu, quelqu'un de séparé du monde, mais qui vit quand même dans le monde. Et quand on accepte de vivre en citoyen du ciel, on paye le sacrifice qu'il faut pour vivre en citoyen du ciel, la gloire de Dieu va se manifester. Et nous serons très heureux. Je crois que quand Daniel s'est retrouvé plus intelligent que les autres, il était très heureux. Quand lui et ses amis se sont retrouvés plus forts physiquement, en meilleure santé, c'est lui qui était plus heureux. Donc choisissons de vivre en enfant de Dieu. En citoyen du ciel, la gloire de Dieu se manifestera. Deuxième élément, nous devons résister ouvertement à la pression du monde et de notre environnement. Résister ouvertement. Nous lisons toujours dans le livre de Daniel, chapitre 3. Daniel, chapitre 3. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix : « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psaltérion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar : « Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre, d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et ne l'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux. Ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. » Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit : « Est-ce de propos délibéré, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée ? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ? » Écoutons la réponse. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar : « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. » En quelque sorte, autrement, nous n'avons pas besoin de polémiquer là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ce regard contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers : « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ? » Ils répondirent au roi : « Certainement, ô roi. » Il reprit et dit : « Eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez !» Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un temps d'immondice, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. » Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Amen. Mais pourquoi nous ne nous vivons pas ces choses aujourd'hui où Dieu fait des grandes délivrances et bénit ses serviteurs? Parce que nous n'avons plus le courage de résister ouvertement à la pression du monde. Le roi Nebuchadnezzar fait une statue d'or. Et il fallait que, au son de la musique, tout le monde se prosterne devant cette statue. Mais comme les Juifs ont un commandement, tu n'adoreras que Dieu seul, pas de faux dieux, pas de statues. Eux, ils ne pouvaient pas se prosterner. Alors on est venu accuser Shadrach, Meshach et Abednego, parce que c'était des Juifs bien positionnés. Les jaloux sont venus voir le roi pour dire, mais les gens que tu as bien positionnés, regarde ce qu'ils font, ils ne se prosternent pas devant ta statue. Vous savez, tout chrétien va vivre l'opposition, la pression du monde pour le faire céder. Et le diable va compter sur le fait que le chrétien, se croyant ou se sentant bien positionné, il ne va pas vouloir perdre ses avantages. Peut-être tu es très bien considéré dans ta famille. Tu ne vas pas vouloir perdre l'amour de ta maman, perdre l'amour de ton papa, et on va utiliser ton papa ou ta maman, on va utiliser un événement dans ta famille pour te mettre la pression. Parce que tu es bien positionné dans tes relations avec ton frère ou ta sœur. On va l'utiliser. C'est pourquoi Jésus a donné un commandement simple. Celui qui aime son père, sa mère, ses fils, ses filles, son mari, sa femme, plus que moi, ne peut pas me servir. Parce que le diable, voyant que tu aimes la chose plus que Jésus, va utiliser la chose comme la statue d'or pour te faire céder un jour ou l'autre. Ces gens-là étaient bien positionnés avec un bon poste dans la société. On leur dit, mais si vous voulez garder vos postes, prospérer ici, vous devez vous prosterner devant la statue d'or. La statue d'or, c'est la pression qu'on peut ressentir. On a dit que le premier élément, vivre en citoyen du ciel, c'est vrai que ce n'est pas facile, cela est possible, mais on n'a pas parlé forcément de pression. Mais il y a des temps de pression. Il y a des moments de pression fortes qui vont s'abattre sur le chrétien pour lui imposer de renier Dieu, d'une manière ou d'une autre. Parfois, on va te dire, mais ce n'est pas un compromis, ça. C'est juste comprendre les autres. La pression vient. On te dit, mais oui, mais pour avoir une salle de prière. Il faut s'entendre avec les catholiques. Là, c'est le maire qui vous dit, nous ici, nous voulons la paix entre les religions. Nous avons appris que vous, vous êtes des têtus. Donc, si vous voulez qu'on vous donne une salle, essayez de faire une prière œcuménique avec les catholiques. Vous n'allez pas adorer les statues, c'est juste que vous allez faire des chants et des prières basées sur la Bible. Or, la Bible dit clairement dans l'Épître aux Corinthiens qu'on ne doit pas faire de mélanges disparates. De Corinthiens chapitre 6, on ne doit pas faire des mélanges disparates avec les infidèles, les gens qui adorent les statues, les gens qui prient les morts, les gens qui prient les saints, sont dans le compromis, puisqu'il n'y a qu'un seul chemin qui amène à Dieu, c'est Jésus. Un chemin facile et gratuit. Il n'y a qu'un seul médiateur. 1 Timothée 2, 5 nous le dit, c'est Jésus. Et Dieu interdit l'adoration des statues dans Exode au chapitre 20. Il interdit l'adoration des morts dans Ésaïe 8, 19. Il ne veut pas qu'on prie les morts. Et un jour, ça va devenir pour toi comme une statue d'or où on te dit, mon cher, si tu n'acceptes pas le mariage pour tous, tu es un homophobe. Et beaucoup de gens vont avoir peur. Si je dis que je suis contre, on va me traiter d'homophobe. Bien-aimé, on a des prédécesseurs qui ont refusé. Ils ont dit, nous, on ne se prosterne pas devant la statue d'or. Ah mais oui, mais on va fermer votre église. Ce n'est pas grave. Notre Dieu nous délivrera. Même s'il ne nous délivre pas, nous refusons de céder. C'est ça la vie de victoire. Et quelle a été la conclusion de cet épisode? C'est que Dieu s'est manifesté avec puissance, miracle et gloire, à tel point que la personne qui les avait envoyés dans le feu était lui-même étonné. Celui qui voulait les tuer est devenu leur défenseur. Il a dit, tout le monde doit maintenant respecter le Dieu de Shadrach, Meshach, parce que c'est le plus grand Dieu. Les païens ont soif de quelque chose de puissant et de vrai. Eux-mêmes, ils sont dans le mélange. Et ça les dérange de venir à nous et de trouver encore du mélange. Et nous, nous croyons qu'en s'en faisant des compromis que les païens vont nous accepter. Bien-aimé, moi, quand j'étais païen, je n'aimais pas les faux chrétiens. Je fuyais les vrais chrétiens, mais je n'aimais pas les faux chrétiens. Voilà. Je fuyais les vrais chrétiens parce que je sentais que... Après de vrais chrétiens, je me sentais sale. Mais je considérais les faux chrétiens comme des gens dangereux. Je considérais les faux chrétiens, les gens qui faisaient des mélanges, comme des gens dangereux, des gens méchants. Mais les vrais chrétiens, je les considérais comme bons et vrais. C'est justement parce qu'ils étaient bons et vrais que je les fuyais, parce que moi-même j'étais mauvais. Et en les approchant, je me voyais vraiment plus mauvais encore. Et j'étais comme désespéré en disant, mais quel jour moi je deviendrai comme eux? C'est impossible. Et c'est ça qui faisait que je fuyais. Mais le jour où Dieu a touché mon cœur, j'ai cherché les vrais chrétiens, je n'ai pas cherché les faux chrétiens. Le païen, celui qui ne connaît pas Dieu, a soif de quelque chose de puissant et de vrai. Il ne veut pas de compromis et de mélanges. Il veut quelque chose qui le dépasse. Quand Nebuchadnezzar, qui semblait être contre le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, a vu que leur Dieu les dépassait, lui, il s'est soumis. Il a dit que personne ne dérange plus ce Dieu-là. Il faut qu'on montre que le Dieu que nous prions est au-dessus de tout, au-dessus de toute domination, au-dessus de la science, au-dessus de tout. Il y a certains chrétiens encore qui croient à l'évolutionnisme. Ah oui, mais c'est les scientifiques qui ont dit, mais est-ce que tu penses que les scientifiques peuvent être plus forts que Dieu qui a fait les cieux et la terre? Mais les scientifiques, qu'est-ce qu'ils n'ont pas changé au cours des siècles comme position? Je vais donner un petit exemple que nous tous nous connaissons. La position de dormir pour les bébés, ça a changé combien de fois? Combien de fois ça a changé? Combien de fois vous entendez aux infos qu'il faut retirer Advil, il faut retirer tel médicament, vous n'entendez pas ça? Et vous voulez faire confiance à ces gens-là? Plus qu'à Dieu lui-même. Aujourd'hui, ils sont convaincus de quoi, vous savez? Ils sont convaincus qu'il y a des extraterrestres qui nous ont mis quelque chose. Ils sont convaincus que l'évolutionnisme est faux, mais ils ne disent pas ça clairement que l'évolutionnisme est faux. Ils réalisent bien que c'est impossible que nous venions du singe. Alors ils disent qu'il y a des extraterrestres qui nous ont greffé quelque chose dans notre ADN. C'est ça qui a fait que nous sommes sortis du règne animal. Parce qu'ils ne comprennent pas. Quand on parle d'ADN, est-ce que vous savez que notre ADN n'est connu qu'à 5%? Beaucoup de gens ne savent pas. Ils attendent seulement ADN. Ils pensent que tout est maîtrisé. Pas du tout. Les scientifiques ne connaissent que 5% de l'ADN. Les 95%, ils ne savent pas. Donc quand on retrouve les gens grâce à leur ADN, ce n'est que les 5% là. Allez vous documenter. 95%, c'est inconnu. On ne sait pas ça veut dire quoi, les 95% là. Dieu est plus fort. Parce que c'est lui qui a créé, il était là, il était présent. La statue d'or, c'est ça. On vous fait croire quelque chose à la télé. Si tu refuses, tu es traité de barbare. Il faut refuser au nom de Jésus-Christ. Il faut suivre la Bible. Il faut résister aux pressions. Vous savez comment on tient les gens? C'est surtout dans certains pays africains, c'est surtout le jour des enterrements. On dit, ah, on va voir, son père est mort, on va voir comment il va se comporter maintenant. Tout le monde vient, il fait un rite après, dans le cimetière, il jette quelque chose, et toi tu ne jettes pas. Oh, mais c'est quand même son père, oui, mais c'est mon père, mais moi je ne me soumets pas devant les statues d'or, je ne jette rien, voilà. Il y en a d'autres qui disent, mais il ne pleure pas. Oh. Donc je dois inventer des pleurs. Et en inventant des pleurs, tu attires un esprit de tristesse. Après, tu es bloqué dans ta vie. On attend le jour des grands événements pour voir comment tu vas te comporter. Parce que si tu te comportes différemment des autres, tu es traité de mauvais, de méchant, de sectaire. Et moi, j'ai toujours dit aux chrétiens, mais c'est dans les grands événements que Dieu nous attend aussi. Vous allez voir, un chrétien, le jour de son mariage, il n'est plus chrétien. Je vous le dis en tant que pasteur, je parle de la plupart des chrétiens qu'on a, on a ici. Le jour du mariage, vous ne reconnaissez plus la personne. Pour un jour, tu changes. C'est les païens nous attendent, les démons attendent ces jours-là. Et vous allez voir, le chrétien, il a fait toute sa vie, il a été correct. Le jour du mariage, c'est fini. Il faut céder à ceci, céder à cela. Le jour de l'enterrement, c'est fini. Il faut céder à telle coutume, telle autre coutume. Il y a des coutumes où il faut cracher quelque part. Le jour de l'enterrement, le chrétien vient sur lui aussi, crache. Il y en a qui prennent une boisson après. Il jette un peu pour les ancêtres. Le chrétien aussi jette la boisson pour les... Mais quel ancêtre t'a dit qu'il avait soif? Bien-aimé. Ça, c'est la statue d'or. On cède devant ces cultures-là. Et après, on ne comprend pas pourquoi notre vie est bloquée. Pourquoi ceci? Comme on a dit hier, certains font souvent les rêves. Mais pasteur, je rêve tout le temps, je suis en Afrique. Mais parce que tu continues avec les choses de l'Afrique dans ta vie. Dieu t'a amené en France pour vivre les choses du ciel. Amen. C'est ça la réalité. Il y en a qui ne comprennent pas, qui héritent de mauvaises choses de leurs parents, mais parce que tu tiens trop. D'une manière charnelle, aux réunions de famille, tu vas là-bas d'une manière charnelle, au lieu d'aller dans les réunions de famille en tant que missionnaire de Jésus, tu vas là-bas en tant que membre de ta famille simple comme ça. Tu vas tout hériter, bien-aimé. Il faut aller dans les réunions de famille en tant que missionnaire de Jésus, citoyen du ciel. venu éclairer la famille pour les amener au ciel. C'est ça la réalité. Les grands événements, c'est la statue d'or. On t'attend le jour des grands événements. Vois comment tu vas te comporter. Parce que c'est là que tu vas paraître comme un mauvais, parce que tu refuses de faire comme tout le monde. Bien-aimé, c'est ça la réalité. Et vous savez, ce n'est pas que dans les cultures du monde, c'est dans les cultures des églises aussi. Hein. Vous voyez, il y a des églises, vous entrez là, bon, tout le monde se lève, acclamons. Oh. Toi, tu t'assois, le pasteur insiste, tout le monde se lève. Oh, mes bien-aimés. Mais est-ce que me lever, c'est ça qui va me rapprocher de Dieu en m'obligeant? Non. Si on dit, bon, est-ce qu'on peut se lever? Chacun écoute Dieu. S'il pense qu'il doit se lever, il se lève. Mais on ne peut pas imposer ça à quelqu'un. Il y a des cultures partout, même dans les églises. Les cultures, c'est des habitudes. On est dans ces habitudes-là. Et on accepte de vivre ces habitudes plus que Dieu lui-même. Non. On refuse ces statues d'or. Il y a des gens qui sont embêtés. Chaque jour, il vient à l'église. Hier, avant-hier, on était à la boule. Et un frère me dit, mais pasteur, il y a un frère de notre église, à la fin de chaque culte, il me poursuit pour me dire, est-ce que tu parles la langue, frère? Chaque jour, il m'embête, est-ce que tu es baptisé de Saint-Esprit? Il ne pose pas la question, est-ce que tu es converti à Jésus? La Bible est claire dans Jean 14, 6, il n'y a qu'un seul chemin qui amène au ciel, c'est Jésus. Prétexter que quelqu'un doit vivre un événement postérieur à ça pour se sentir vrai chrétien, c'est changer la Bible. On aime les dons spirituels, on aime le parler en langue, on aime la prophétie, mais c'est Dieu qui donne. J'ai dit, frère, pourquoi on va te reprocher de quelque chose que toi-même, tu ne peux pas te donner à toi? Aujourd'hui, si on me disait que j'étais mal coiffé, j'accepte de corriger parce que je sais que je peux corriger ça. On me dit que tu as oublié tes lunettes. J'accepte. Parce que je peux corriger ça. Mais tu me dis que je ne parle pas en langue. Où est ma faute dans ça? Il faut que tu embêtes Dieu pour dire, mais il ne parle pas en langue. Donc c'est ce que tu devrais faire chaque jour. Seigneur, il ne parle pas en langue. Ça, là, on est d'accord. Mais tu viens, le frère dit, mais parce que je suis épuisé. À chaque fois, il me poursuit. Il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Mais oui, mais est-ce que qui va me baptiser? C'est moi-même ou bien quelqu'un d'autre? C'est quelqu'un d'autre. Mais dis à ce monsieur-là de me baptiser. Il dit, prochainement, il faut lui dire ça. Ce n'est pas à toi, ce n'est pas toi qui dois embêter. C'est Dieu qui doit embêter. Nous, on veut bien de tout ce qui est écrit dans la Bible, mais c'est Dieu qui pourvoit tout cela. Il y a des gens qui viennent vous voir, mais oui, mes frères, tu sais, ça fait longtemps que tu cherches une voiture. Tu n'as pas toujours une voiture. Il y a peut-être une malédiction dans ta vie. Non, bien-aimé. Il faut pas céder à des cultes, à des cultures dans l'église. Ou pour être un vrai chrétien, il faut être riche. Il y a des pasteurs qui prêchent ça. Si tu n'es pas riche, tu n'es pas béni. C'est faux. L'apôtre Paul a dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance comme dans la disette. Il n'y a pas de culture dans l'église. Il n'y a que Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur, même les gens du monde le savent. Hein. Ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur, c'est Dieu qui fait le bonheur. Il met la paix, l'assurance qu'il est avec toi, il s'occupera de tout. David a dit, même dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains rien, parce que Dieu est avec moi. Il n'a pas dit parce qu'il y a mes soldats avec moi. Non, parce que Dieu est avec moi. Le psaume 33 dit, ce n'est pas une armée qui sauve le roi. Hitler n'avait-il pas une armée? Staline n'avait-il pas une armée? Ils avaient des armées, mais ils n'ont pas été sauvés par ces armées-là. Ils sont morts. C'est Dieu qui tient la vie d'un homme dans sa main. Attention
au statut d'or. C'est des doctrines, c'est des façons de faire qui s'imposent à nous fortement. Si on ne fait pas ça, c'est comme si on a offensé toute la société, que ce soit des chrétiens, que ce soit des non-chrétiens. On doit résister à ça, dire « Moi, je suivrai ce qui est écrit dans la Bible. » Je suivrai ce qui est écrit dans la Bible. Le jour du jugement, frères et sœurs, on nous jugera en fonction de ce qui est écrit dans la Bible. On ne nous jugera pas en fonction de la société. Alors, quand tu seras devant le tribunal, il faut que tu justifies tout par la Bible. Mais si tu vas dire au tribunal, c'est parce que tout le monde faisait ça, eh bien, on te dira, ce n'est pas parce que tout le monde faisait ça que c'était vrai. Ce qui est vrai, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Le jour des enterrements. Comme beaucoup, la majorité des humains, c'est des catholiques. Et on nous attend les jours des enterrements. On va voir, il y a des chrétiens qui disent, moi, je n'entre pas dans le temple catholique. Mais non, tu es méchant. C'est ta mère qui est morte. C'est ton père. Mais oui, mais qu'est-ce que... Moi, j'ai dit à quelqu'un, si ça pouvait les ressusciter, peut-être, j'aurais compris un tel compromis, humainement parlant. Même si, bibliquement, je ne comprends toujours pas. Mais ma présence dans ce temple catholique, ça va faire quoi? Ça ne va faire que tuer mon âme. Parce qu'il y a des statues, il y a des idoles. Et le culte qu'ils font là, ce n'est pas le culte du véritable Dieu. Je sais que je peux choquer certains, mais rendez-vous après le culte dans mon bureau. On va examiner les Écritures. Vous allez voir que ce qui est dit est vrai. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, mais je suis l'aîné de ma famille. Donc, puisque tu es l'aîné de ta famille, tu dois te compromettre pour ta famille, non? Moi, j'ai dit, non, tu n'as pas entré dans le temple catholique le jour de l'enterrement de ta mère ou de ton père. Et vous savez ce qui est rigolo, c'est que les communistes, eux, ils n'entrent pas et personne ne les embête. Hein. Les vrais communistes, ils n'entrent pas dans les temples catholiques. Et vous allez voir, dans les familles, personne ne les embête, on les comprend. Ah oui, c'est normal, c'est des communistes, c'est des athées. Mais pourquoi moi, qui suis chrétien, qui veut suivre la Bible, je n'entre pas, ça devient tout un problème. C'est la pression, c'est la statue d'or. Il faut être prêt à dire non, je n'entre pas. Et moi, je dis, mais c'est le moment même d'évangéliser, de prêcher la parole. Mais pourquoi tu n'entres pas? Je n'entre pas parce que la Bible, il est interdit. La Bible, il est écrit dans la Bible que c'est interdit d'adorer les statues. C'est interdit de prier les morts. Et le catholicisme est basé sur des affirmations qui ne sont pas bibliques. Donc je refuse de subir ce culte-là. Oui, mais toi, tu ne vas pas prier. Tu vas être là-dedans. Mais comme je suis inutile là-bas, donc vaut mieux que je reste dehors. Ça, c'est la statue d'or. Pour finir, bien-aimés, si nous voulons vivre dans la victoire, comme nous sommes tous des ambassadeurs de Christ, nous devons prêcher l'évangile sans compromis, dans toute la vérité. Vous savez, plus tu convertis quelqu'un sans compromis, tu as un soutien plus tard. Mais si tu convertis les gens par amusement, par sympathie, tu n'as pas de soutien. Ces gens-là contribueront à blesser ton cœur un jour ou l'autre. Quand ils suivront le diable, ton cœur sera blessé. Mais parce que tu ne les as pas convertis dans la vérité, tu les as convertis dans la logique du nombre. Il faut prêcher l'évangile total. L'évangile sans compromis. Et quand quelqu'un se convertit, c'est un soutien jusqu'au bout. C'est comme ça que nous pouvons aussi évoluer. Avoir des soutiens temporaires en grande quantité... Un jour, ça tourne mal quand on est déçu. Jésus n'a été trahi que par un seul disciple. Un seul. Et parce que ça faisait aussi partie de la stratégie de Dieu. Mais le reste était vraiment converti. Et ils ont été jusqu'au bout. Donc nous devons prêcher le véritable évangile. Ne prêchons pas un évangile corrompu. Un jour, on m'a invité dans une radio... En Guyane, une radio haïtienne, Les gens appelaient pour dire, priez pour moi, ma soeur est malade. Priez pour moi, je vais au travail. Priez. Alors, quand c'est arrivé à mon tour de prêcher, j'ai donné Jean 8, j'ai dit 23-24, il est écrit, si vous ne vous convertissez pas, vous mourrez dans vos péchés. Il dit que l'évangile n'est pas un hôpital où on vient pour chercher la guérison physique. Ce n'est pas non plus une banque où on vient chercher les moyens financiers. Ce n'est pas une société d'assurance où on vient chercher la protection en cas d'accident. L'évangile, c'est quoi? C'est que tout homme est pécheur. Tout homme a le péché en lui. Nous le voyons par son comportement. Tout homme dans le monde a reçu le péché d'Adam. Est héritier d'Adam, a le péché en lui. Maintenant, s'il ne vient pas à Jésus, ce péché-là le détruira et l'amènera en enfer. Mais s'il vient s'humilier et confesser devant Jésus, Jésus le sauve et fait de lui un citoyen du ciel. Et Dieu s'occupe de lui pour tout le reste. Voilà l'évangile. Après mon message, il n'y a plus eu d'appel. Hein, pour dire, priez pour moi. Il n'y a plus eu. Ils ont compris qu'ils doivent se convertir d'abord à Jésus. Parce qu'ils ont un plus grand problème que le travail. Ils ont un plus grand problème que la santé de leur sœur, le problème de leur propre salut. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que le jour de ta mort, tu iras au ciel? C'est ça l'enjeu, bien-aimé. L'évangile, ce n'est pas un amusement. C'est la vie d'un homme, la vie d'une personne dont nous devons prêcher la vérité qui sauve. Nous devons refuser le compromis. Être à 100% libéré de la culture pour être utilisé par Dieu et exposer le véritable évangile, de sorte que ceux qui sont sauvés deviennent des soutiens et on va de plus en plus puissamment en avant. C'est comme ça que nous pouvons chaque jour marcher dans la victoire. Vivre en enfant de Dieu, résister à la pression d'une manière ouverte et prêcher le véritable évangile sans compromis. Et le monde saura que Dieu est Dieu à travers nous. Prions le Seigneur. Éternel, merci de nous libérer des cultures empruntées, des cultures aussi d'origine. Merci de nous libérer des cultures dans les églises aussi, des traditions, des coutumes des églises, pour que nous puissions nous reposer sur les Écritures, sur ta parole, et rien que sur les Écritures, par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Merci de te manifester dans ta gloire, dans ton amour et dans ta puissance. Nous nous attendons à toi, Seigneur. C'est toi qui nous appelles, et tu nous dis, celui qui te suit doit prendre sa croix et te suivre. Parce que la vie sur terre, à cause du fait que nous sommes citoyens du ciel, ça va être une vie de croix. Et nous ne voulons pas fuir la croix. Parce que la croix nous amène à la résurrection. Alors que le compromis, la complaisance nous amène à la mort. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, de nous aider à t'aimer plus que tout. Seigneur, elle nous accompagne partout, elle nous entoure tellement qu'on ne se rend plus compte de sa nocivité. Aide-nous à ouvrir les yeux et à examiner ce que dans nos vies vient de la culture et non de l'évangile et qui est un frein pour nous. Car la culture peut être aussi mondiale, faire comme tous les humains. Nous, nous voulons faire comme toi tu veux, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Toi, le Dieu vivant et fidèle. Aide-nous à vivre en citoyen du ciel, à résister à toute oppression et à annoncer l'évangile sans compromis. Et nous savons que nous allons expérimenter les mêmes délivrances que Daniel et ses amis, expérimenter les mêmes percées que si nous sommes attachés à toi.
Aide-nous à croire en cela. À ne pas choisir la facilité du compromis. À ne pas choisir la facilité de faire comme tout le monde. Mais à faire face à tout ce qui est mensonger et soutenir la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Même si nous perdons certaines choses par ce chemin-là. Même si nous perdons le nombre, mais la vérité vaut mieux que le nombre, Seigneur. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen.